Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Nous sommes lundi 30 juin 2014. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Le débat du jour porte sur le fléau de la drogue au Mali. Et comme vous le savez, nous consacrons les 45 minutes du débat à trois aspects liés à la thématique. Ces aspects sont les suivants. Le point sur le fléau de la drogue au Mali, la lutte contre la drogue dans le pays, la gestion des conséquences et notamment sanitaires. Des invités vont nous aider à comprendre ce débat. Tout d'abord, Youssouf Fadiga Soumounou de Samounou, du réseau des jeunes leaders pour le développement, le professeur Baba Koumaré du service psychiatrique de l'hôpital du Point G, Mamadou Yatassai de l'association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes. Nous espérons également sur la présence de Mohamed Kanouté, chargé de communication à l'Office central des stupéfiants du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous direz m'assiste à la technique. Studio Tamani. Le Mali, au même titre que la communauté internationale, a célébré mercredi 26 juin la Journée internationale de la lutte contre la drogue. Le thème de cette année, la lutte contre le trafic illicite de drogue. Quel rôle pour la société civile? La société civile a-t-elle un rôle dans la lutte contre le trafic de drogue? Mamadou Yatassai de l'Association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes.
Ok.
Alors, la société civile, le rôle de la société civile dans cette lutte.
Je remercie Monsieur
Tamani.
Je m'appelle Mamadou Yatassai, le président de l'Association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu la chance de célébrer la journée du 26 mars avec la direction centrale des stupéfiants. En organisant une marche d'abord de sensibilisation avec les honorables, deux honorables députés de l'Assemblée nationale, l'honorable Amadou Cham et l'honorable Tene, l'élu de la commune 1. Le rôle de la société civile dans cette marche, c'était de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser d'autres structures de la jeunesse sur le fléau de la drogue. En quoi de là maintenant, avec la marche qu'on a commencé de l'ENA centrale, ex-ENA centrale, pour venir lire un mémorandum devant le ministère de l'Intérieur. Dans ce dit mémorandum que j'ai eu la chance de lire, d'être le porte-parole de la société civile, c'était de décrier ce fléau et encore faire un appel aux autorités de prendre en charge les déficients mentaux, créer un centre spécialisé pour le traitement des toxicopédants, favoriser les structures de lutte contre la drogue au Mali, en l'occurrence le service des stupes, les structures de jeunesse qui luttent contre la drogue au Mali. En dehors de la marche, nous avons été à la faculté de droit, que j'ai eu encore la chance d'être le porte-parole de la société civile, car je suis membre de la société civile du Mali. Le rôle de la société civile dans cette conférence débat était tout simplement de sensibiliser et que la société civile n'a pas de moyens de répression contre la drogue. Notre rôle sera tout simplement de sensibiliser
et de faire des plaidoyers allant dans ce sens. Alors, Youssouf Fadiga Soumounou, voilà. Je vais y arriver. Votre association également fait partie des associations de la société civile, le réseau des jeunes leaders pour le développement du Mali. Alors aujourd'hui, quelle peut être votre implication dans cette lutte contre la drogue?
Et merci Famsa, merci au studio Tamani. Je pense que mon ami et collègue Yatassai a touché un peu le doigt. C'est que la société civile aujourd'hui au Mali, notre rôle c'est de sensibiliser, de faire des plaidoyers auprès de nos autorités, vraiment pour penser un peu à ces flots. C'est très important. Je pense qu'il y a eu beaucoup de missions, il y a eu beaucoup des actes posés par la société civile concernant ces fléaux. Je pense que Yatassaï a un peu touché. Nous, on est là pour sensibiliser parce que nous avons dit que peut-être l'État, peut-être souvent, et c'est la répression. Maintenant, nous, on veut vraiment sensibiliser et puis éduquer et pousser les jeunes à vraiment ne pas toucher la drogue. Voici un peu les rôles de l'association.
Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir dans notre studio le professeur Baba Koumaré. Comment peut-on aujourd'hui schématiser le degré d'intrusion de la drogue au Mali, professeur?
Merci. Je crois qu'avant d'aborder cette question, il convient de placer ce problème dans son cadre réel. Quand on parle de toxicomanie et quand on parle de drogue, je crois que la lutte contre ce phénomène, qui est un phénomène plus que national, puisque c'est un phénomène mondial, bien entendu, il faut nécessairement que les uns et les autres se rendent compte que ce problème doit être hissé d'abord au niveau de rang de priorité. Et je crois que les événements du nord du Mali ont bien montré cela. Parce que c'est à travers les problèmes de drogue qu'on fragilise toute une frange de la population, qu'on les rend vulnérables et que tout le pays finalement en pâtit par la suite. Bien entendu, pour envisager la lutte contre la drogue, j'ai toujours dit qu'il faut prendre en compte les trois aspects. Et sans ces trois aspects-là, on ne peut pas venir à bout du problème de drogue.
Quels sont ces aspects?
Le premier aspect, c'est d'abord les usagers. C'est les individus qui vont consommer de la drogue, qui vont prendre la drogue et qui vont devenir pratiquement des esclaves, des prisonniers, qui, comme on le dit, c'est des addicts. Et on les appelle couramment les drogués, les drogueurs. Il faut prendre cela en compte. Leur personnalité, ceci est extrêmement important. Deuxième aspect, c'est les produits. Parce qu'il y a une multitude de produits. Et les produits n'agissent pas de la même manière et n'apportent pas les mêmes problèmes. Parce que le gros problème que les produits vont apporter, c'est le problème de dépendance. La dépendance à deux niveaux, physique et psychologique. Ces deux dépendances font que l'individu devient comme un pantin. Donc, prêt à tout pour avoir sa dose. Il est même prêt à tuer sa propre mère pour avoir sa dose. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, cette dépendance-là, effectivement, ça relève un peu dans notre lutte. Ça, c'est un des points importants qu'il faut prendre en compte. Troisième aspect, c'est l'environnement, c'est le contexte socio-culturel lui-même. Le contexte, le moment où, effectivement, nous savons que dans le temps, certains produits étaient consommés, qui sont considérés aujourd'hui comme drogue, mais c'était consommé dans des cercles bien restreints et c'était bien contrôlé. Maintenant, c'est sorti du cadre. Pour comprendre cela, nous savons que même pendant nos cérémonies, on utilisait certains produits, al-moukaïkaï. Mm-hmm. Ça fait partie du datura.
Traditionnel.
C'est des produits que l'on prenait, mais après, ça n'allait pas loin. Et c'était pris aussi au niveau de sociétés ésotériques, des sociétés qui pouvaient consommer pour arriver à certains états de conscience pour pouvoir s'élever encore plus haut. Mais actuellement, le contexte mondial qui se présente fait que ce fléau, qui n'a pas pu être contrôlé même par les États-Unis qui ont tous les moyens, qui ont déployé tous les moyens, pose le problème non seulement au niveau national, on doit prendre conscience de cette réalité pour en faire un problème national et le hisser au niveau de priorité, mais ne pas perdre de vue que seuls nous ne pouvons pas gagner aussi cette bataille, que c'est avec les autres que nous devons gagner. Okay. Donc vous voyez, pour résumer, il y a les trois aspects, les usagers, la personnalité des usagers, il y a les produits, puisqu'il y a plusieurs types de produits, pouvant aller des plus légers, comme on le dit, jusqu'au plus dur, hein. Le cannabis, même le tabac, fait partie finalement quelque part.
On va y venir dans la troisième partie du débat.
Et puis, et jusqu'aux produits les plus corsés, comme la cocaïne et même l'héroïne.
Alors, professeur, si on vous demandait de schématiser aujourd'hui l'intrusion de la drogue dans la société malienne, quel serait votre résultat?
Je vais tout simplement voir au niveau des tendances. J'ai commencé cette lutte depuis les années 80. Les années 80, en ce moment-là, bon, jeune médecin, bon, donc à plein d'euphorie et tout ça, nous avons essayé, il y avait tout un institut de formation de lutte contre la drogue, l'Institut francophone, bon, donc j'étais un des experts, bon, donc maintenant je suis encore expert de santé mentale dans ce... À l'époque, on disait que le Mali était un pays de transit, donc c'était un phénomène, on prenait comme si c'était un phénomène marginal. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que si on se réfère tout simplement au district de Bamako, tous les quartiers sont envahis. Alors qu'à l'époque, on parlait beaucoup plus de Baradaji, on parlait de Medinakura. Maintenant, c'est tous les quartiers. Il ne faut pas se fermer les yeux. Et pignon sur rue, tous ces produits circulent. Et là, c'est très grave. Cette situation fait que on se rend compte que de plus en plus de jeunes sont recrutés et tombent dans ce piège de ce phénomène-là, qu'est la consommation, parce qu'ils sont confrontés à une réalité où ils ne voient plus d'horizon. Ils n'ont plus de boulot et l'avenir, ils ne savent même plus de quoi est fait l'avenir, de quoi est fait demain. Donc, ils tombent dans l'illusion de la drogue, puisque ça ne fait que différer. Mais après, il retombe dans la réalité qui fait que la drogue n'est tout simplement que le poison qui va les amener petit à petit, non pas vers le boulot, non pas vers l'avenir, mais sûrement vers leur tombe.
Alors, professeur, juste un mot sur les usagers. Vous parliez tout à l'heure de l'usager en tant que tel. Est-ce que vous voulez dire que la personne, le toxicomane n'est pas respecté dans son choix? Bien, je me trompe peut-être.
Respecter dans quel...
Quand vous dites l'usager lui-même, comment est-ce que vous définissez cet aspect?
Oui, ça dit que je dis tout simplement, pour qu'il y ait toxicomanie, pour qu'il y ait consommation de drogue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour consommer cette drogue. Ouais. C'est en ce titre que je parle d'usager. Il y a ceux qui sont recrutés, il y a ceux qui tombent dedans, il y a ceux qui échappent. On va prendre un groupe de jeunes, on se rendra compte que certains, ils vont commencer à consommer cette. D'autres vont essayer, mais d'autres n'iront pas loin. Mais il y a d'autres qui vont s'incruster dedans. Peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, peut-être des prédispositions déjà pour tomber justement dans la drogue.
Voilà. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec le débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle. L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous nous suivez en direct sur notre site web et également www.studiotamani.org ou sur la page Facebook en entrant tout simplement Studio Tamani dans le routeur de recherche. Le fléau de la drogue au Mali, c'est le sujet du grand dialogue d'aujourd'hui. En cette deuxième partie, il sera question de la lutte contre la drogue dans le pays. Nos invités, Youssouf Fadiga Samounou, du réseau, cette fois-ci j'ai bien prononcé, du réseau des jeunes leaders pour le développement, développement au Mali et le professeur Baba Koumaré du service psychiatrique de l'hôpital du Point G. Nous avons également la présence de Mamadou Yatassaï de l'association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes. Alors cette deuxième partie est consacrée à la lutte contre la drogue. Les politiques de lutte contre la drogue sont-elles efficaces au Mali, monsieur Yatassaï?
D'accord. Pour répondre à votre question, je peux dire que les politiques de la lutte contre la drogue, ils sont là à faire de leur mieux, mais ça reste beaucoup à faire. Parce que lors de nos passages dans certaines localités du Mali, il y a des jeunes qui nous disent que leurs économies sont liées à la drogue. En transportant la drogue en un point A, pour livrer en un point B, leur économie dépendait de ça. Donc, en ce sens, dans leur lieu, ils ne peuvent même pas parler de la lutte contre la drogue dans ces différentes localités. Ce qui est la politique de la lutte contre la drogue au Mali, je pense qu'il faut impliquer nécessairement la société civile pour sensibiliser, pour empêcher même la jeunesse d'aller vers la drogue. Si les moyens de répression ne sont pas aussi sévères ou bien aussi compliqués, moi je souhaiterais, si la politique peut prendre en compte l'implication des structures de jeunesse qui luttent contre la drogue au Mali.
Alors, je rappelle que nous avons invité les différentes structures étatiques. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à nos demandes. Alors, Youssouf Fadiga Samounou, du réseau des jeunes leaders pour le développement, que pensez-vous des politiques de lutte contre la drogue au Mali?
Voilà, et je pense que notre lutte, c'est un peu... je pense que ce n'est pas aussi au top parce qu'il y a au Mali, même il y a très longtemps, avec la CONFESES, la conférence des ministères au sport en Afrique qui parle la langue française. Maintenant, et chaque année, ils organisent des séminaires dans les pays. Maintenant, leur but, c'est qu'il faut que les pays prennent en compte réellement la lutte contre la drogue. C'est vrai, au Mali, nous le savons, avec le professeur Koumaré, il y a très longtemps, il donne des conférences, il donne beaucoup de débats autour de ça. Mais réellement, avec cette année, nous avons compris que, comme vous avez dit tout à l'heure, avec l'Office des bénéficiaires au Mali, ils n'ont pas assez de moyens, en réalité, pour faire leur lutte. Nous, les associations, on n'était pas aussi vraiment beaucoup impliqués par rapport aux luttes contre la drogue. Maintenant, ce que Yatassaï a dit, lors de nos passages dans le grand nord du Mali, tu rencontres tout de suite un jeune, il vient te proposer, est-ce que vous avez besoin de la drogue? Tout de suite, il ne cherche même pas à comprendre qui tu es. Maintenant, et tout de suite, cela veut dire que c'est pour dire que c'est très faible. Et nous avons compris aussi qu'avec les jeunes usagers de drogue, maintenant, quand tu as un problème, quand on t'amène à la prison, et tout de suite, tu sors un grand dealer. Tu sors, au lieu que ça soit des corrections, mais tu reverses carrément. Voilà, tu reverses carrément. Moi, je pense qu'il faut vraiment de plus. Il faut faire plus par rapport à ce lutte-là aujourd'hui.
Ok. Alors, professeur Baba Koumaré, vous retrouvez aujourd'hui avec plusieurs déficients à cause notamment des stupéfiants. Qu'est-ce que vous pensez des textes qui sont en vigueur au Mali? Est-ce que ces textes sont suffisants dans le cadre de la répression?
Dans le cadre de la répression, je crois que pour cette lutte, il faut toujours remettre les choses dans leur cadre. J'ai dit que la lutte, il y a deux niveaux. Il y a les deux aspects, l'offre et la demande. Tous les efforts ont été déployés au niveau de l'offre, faire en sorte que les produits n'arrivent pas aux consommateurs. C'est là où la répression C'est-à-dire que tous ceux qui, effectivement, sont dans le domaine de la répression, la police, gendarmerie, et même ceux qui sont dans la douane, les affaires économiques, tout ceci, c'est au niveau de l'offre. Et il y a aussi l'autre aspect, la demande. Cet aspect-là, qui peut se décliner non seulement en traitement, mais aussi en réhabilitation des usagers, est extrêmement important quand on veut lutter. Parce que ceux qui sont victimes de la drogue, il y a deux perceptions. Il y a ceux qui pensent que bon, c'est des malades, ce n'est pas de leur faute, ou bien c'est des victimes. Il y a ceux qui pensent que c'est des délinquants, il faut les punir. Et ceux qui sont du domaine de la répression les voient beaucoup plus comme des délinquants. Ceux qui sont du domaine du traitement et de la réhabilitation les prennent beaucoup comme peut-être des malades. Je crois qu'il y a un peu des deux.
Comment ça les voyez-vous aujourd'hui, vous ?
Moi, je les vois tout simplement comme des personnes humaines qui ont besoin d'aide. Il faut les aider et faire en sorte qu'on ne puisse pas les abandonner. Parce que plus on les abandonne, plus on perd les choses. Je prends un exemple très simple, même pour les problèmes de drogue. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on investit pour la lutte contre le sida, or, nous savons qu'un des meilleurs moyens pour la prévention du sida, c'est le préservatif. Or, la population cible la plus concernée par la drogue et par le sida, c'est surtout les jeunes. Or, un jeune qui est sous l'emprise de la drogue ne va pas penser à prendre le préservatif parce qu'il n'a même plus sa tête à lui. Hein? C'est pour cela que l'on dit chez nous, en Bambara, et c'est là où il faut vraiment engager le combat pour faire en sorte que les jeunes eux-mêmes puissent se renforcer, dire non à la drogue et une sexualité responsable et qu'ils puissent être bien dans leur tête pour dire non et refuser la drogue.
Alors aujourd'hui, le Mali vit une crise. Est-ce que cette crise-là a eu des effets considérables sur la propagation de ce phénomène, de ce fléau de drogue au Mali?
Tout à fait. Je pense que quand on parle de groupes armés, de groupes ceci, groupes cela, bon, il ne faut pas se voiler la face. Je crois que ceux qui sont au nord, ceux qui sont révoltés, se sont beaucoup appuyés sur ces groupes-là, qui en fait ont comme moteur, en fait, ce qui les fait vivre. L'essence, c'est la drogue et les armes. Tout se passe à ce niveau-là. Et c'est nourri par le trafic international et tous ceux qui viennent justement pour cela. C'est pour cela qu'on a des problèmes. Alors, donc, tout ce fléau, la drogue devient effectivement. Hein, c'est pour cela qu'il faut le prendre comme une menace contre la paix mondiale, la paix tout court. Et que nul n'est épargné par ce phénomène-là. Et qu'on puisse ramener justement le phénomène de la drogue-là au niveau des priorités, quand on veut débloquer des fonds pour lutter contre ce phénomène. Je crois qu'il faut penser vraiment à la drogue. Parce qu'en faisant ça, on peut aider la jeunesse à repousser cela.
Alors, vous parliez tout à l'heure de méthodes préventives. Aujourd'hui, quelles peuvent être les méthodes préventives pour stopper définitivement ce fléau de drogue au Mali, professeur?
Les méthodes préventives... Quand je parle de méthode préventive, il y a plusieurs niveaux de prévention. Quand j'ai parlé de l'offre déjà, pour que le produit n'arrive pas aux usagers. Donc ça, c'est le domaine de la répression. Donc prendre toutes les dispositions. Et ça ne se fait pas sans mesures, sans dispositions législatives et réglementaires. C'est les textes de loi. C'est là où il y a certaines faiblesses. À un moment donné, on avait des textes de loi qui brimait tout le monde, en fait. Et c'était vraiment très, très difficile à appliquer. Mais je crois qu'en dehors des textes et puis de la répression en tant que telle, il y a effectivement toute la sensibilisation qu'il faut faire autour de... La sensibilisation, c'est des mots souvent à l'air. Il faut former les gens, il faut les éduquer. C'est une éducation qu'il faut reprendre. Quand on part déjà de l'éducation, des fois... ça fait souvent sourire certains. Moi, je dis, des fois, il nous faut revisiter certaines de nos anciennes valeurs. Ça nous aide beaucoup. Rien que quand on veut avoir, par exemple, une sexualité responsable, vous savez que dans le temps, il y avait une éducation telle que, quelque part, ce n'est pas l'anatomie, la physiologie. Quand on parle d'éducation sexuelle, les gens voient cela. Ce n'est pas ça. Il faut aller au-delà. C'est aller au-delà pour faire en sorte que la fille devienne, on la voit comme une sœur, comme une maman, comme une amie, comme une épouse. Apprendre à respecter l'autre, à faire un certain... C'est ça l'éducation.
Donc vous pensez que les valeurs sociétales doivent prévaloir aujourd'hui?
Exactement, ça doit nous aider, effectivement, à aller vers une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est, vous voyez, la sensibilisation, la jeunesse, généralement c'est ça. Parce qu'actuellement, toutes les valeurs ont été pratiquement galvaudées et les jeunes ne se retrouvent plus dedans.
Alors aujourd'hui, est-ce que les consommateurs, les usagers, comme vous les appelez, peuvent être réprimandés aujourd'hui à la même enseigne que les dealers, professeur?
Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il est évident tout à l'heure que dans la perception, les usagers sont perçus, comme je l'ai dit, de deux manières. Soit pas comme délinquants pour certains, ils ne cherchent même pas à comprendre, mais aussi comme victimes ou même malades pour certains. En tout cas, pour moi, en tant que médecin, bien entendu, je vois cet aspect par lequel je peux les prendre en charge. C'est le côté médical. Donc là, mon travail, ce serait beaucoup aller dans la prise en charge de ces individus et aller essayer même de les rééduquer et faire en sorte qu'ils puissent
être réinsérés dans la société. Alors, Mohamed Kanouté, chargé de communication à l'Office central des stupéfiants, vient de faire son entrée dans ce studio. Mohamed, nous parlions du volet qui vous concerne au premier degré. Nous parlions de la répression. Est-ce que vous êtes un organe de répression? Si oui, est-ce que les usagers de drogue, les toxicomanes sont bénéficient de la même sanction que les dealers?
Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos auditeurs. L'Office central des stupéfiants est une structure rattachée, une direction rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle a été créée en 2010 et elle a été vraiment opérationnelle donc à partir de 2011. 2012-2013 déjà, nous avons commencé à produire les premiers résultats. Nous sommes une structure de répression, investie de ce fait par une mission de police judiciaire. Mais au-delà de ça, nous travaillons aussi donc, pour la sensibilisation. Certainement, le professeur a eu à dire après moi, avant moi, que la répression a quelque part montré ses limites dans la lutte contre ces fléaux. Donc c'est pourquoi, donc, au-delà de la répression de cette mission dont nous sommes investis, nous travaillons beaucoup donc à mettre l'accent sur la sensibilisation des groupes cibles, la sensibilisation donc de la société civile, donc pour faire donc de ce combat donc un combat de tous, parce que en réalité ce n'est pas seulement une mission des autorités, une mission des pouvoirs publics, ça doit être une mission de tout le monde pour prétendre, pour aspirer donc au bien-être sur le plan santé.
Okay. Alors, si vous avez des statistiques, je vous demande de les sortir, car la troisième partie débattra en longueur de ces statistiques ici au Mali. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie, les conséquences du fléau de la drogue au Mali.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Alors, nous sommes à la troisième partie. Nous sommes fiers de vous savoir nombreux à nous écouter. Et ces écoutes sont possibles aujourd'hui grâce à notre réseau de correspondants et d'ailleurs le programme d'appui à la transition au Mali financé par l'USAID afin d'un don de matériel pour équiper le réseau de correspondants de Studio Tamani au Mali. Les 20 correspondants vont recevoir chacun un ordinateur, un enregistreur et un appareil photo numérique et un chargeur solaire. Et oui, chaque jour, nos 20 correspondants de Kay à Kidal produisent la moitié des informations que vous suivez sur nos antennes. Alors, le grand dialogue d'aujourd'hui, nous sommes à sa troisième partie. Le sujet du jour, le fléau de la drogue au Mali. Cette troisième partie est consacrée à la gestion des conséquences du fléau de la drogue au Mali. Nous avons comme invité Youssouf Fadiga Samounou du réseau des jeunes leaders pour le développement au Mali, Mohamed Kanounté, chargé de communication à l'Office central des stupéfiants. Nous avons également le professeur Baba Koumaré du service psychiatrique de l'hôpital du Point G et enfin, Mahamadou Yatassai de l'Association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes. Pour reprendre le professeur Baba Koumaré, lors d'une interview dans les colonnes du journal Jeune Afrique en 2013, 5 à 10% des pathologies mentales ont pour cause la consommation de drogue au Mali. Toujours selon lui, le chiffre est en constante augmentation. Il rappelle même qu'il y a 10 ans, il était de 2 à 3%. Professeur, ces chiffres sont toujours au même niveau?
Non, ça ne fait qu'augmenter, justement, compte tenu du contexte. Comme je l'ai dit, il y a une nette augmentation parce qu'on recrute de plus en plus de jeunes et que notre population rajeunit du fait de cet élément qu'est la drogue. Parce que là, ça entraîne. Généralement, ce que l'on reçoit, ce n'est souvent pas avec le problème de drogue spécifiquement. Ils viennent avec une pathologie et on se rend compte qu'il y a une forte consommation de drogue souvent derrière. Et c'est ce qui fait que, justement, la tendance va à la hausse plutôt qu'à la baisse.
Alors, malheureusement, nous n'avons pas eu de douanier pour venir à ce débat, mais nous avons l'Office central des stupéfiants. Alors, quelques statistiques pour illustrer un peu l'ampleur de la consommation de drogue aussi, ou bien de la répression de la drogue au Mali.
Oui.
Mohamed Kanouté.
L'ampleur de la consommation de drogue, on peut se référer aux dernières statistiques fournies et par la direction de l'Office central des stupéfiants. Et parce que je profite pour rappeler que nous sommes le service habilité à produire chaque année, donc les statistiques et un rapport annuel donc, qui est transmis donc, pour informer les pouvoirs publics sur l'état donc, et les menaces donc, par rapport au trafic et à la consommation donc, de ces produits. Donc, à titre d'exemple, je peux vous dire qu'en 2013, tout produit confondu et par tous les services de répression de contrôle confondus, le Mali a pu saisir plus de 2800 kilos donc de drogue. 2800 kilos de drogue. Et en 2014, donc nous sommes à plus de 3000 kilos, donc environ 3 tonnes donc de drogue. L'ensemble des services donc de répression et de contrôle, la douane, la police, la gendarmerie, l'Office central des stupéfiants, tout drogue confondu. Donc, mais quand on regarde, et aujourd'hui, on voit nettement que les drogues dures donc font de plus en plus leur apparition donc sur le marché de consommation malien. Donc, à titre d'exemple, cette année, nous avons saisi environ donc plus de 6 kilos donc, de cocaïne et environ donc, une dizaine de kilos de méthamphétamine. Donc, avant, ces genres de produits étaient considérés comme des produits de transit donc, qui étaient réservés donc, à des consommateurs donc, beaucoup plus donc, aisés, beaucoup plus nantis. Donc, nous, on savait beaucoup plus pour le cannabis, mais aujourd'hui, ce phénomène est de plus en plus inquiétant parce qu'au-delà d'être simplement donc, un pays de transit, et nous nous rendons compte que notre pays est de plus en plus un pays de consommation et de drogue dure.
Okay. Alors, Mohamadou Yatassai de l'Association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes, qu'est-ce que cela vous fait en entendant les estimations, les chiffres que vient de donner Mohamed Kanouté de l'Office central des stupéfiants?
Ces chiffres, c'est inquiétant. Si c'est inquiétant, que le Mali était considéré comme un pays de transit avec 3 tonnes de drogue, c'est la jeunesse qui se sent en danger. Et nous, en tant qu'association, on déplore la quantité de la drogue au Mali et nous allons tout faire pour sensibiliser nos camarades jeunes par rapport à la consommation de la drogue.
Alors, tout à l'heure, le professeur parlait de prévention. Mohamed Kanouté également vient de parler de prévention. Alors, Youssouf Samounou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette problématique qui est aujourd'hui les méthodes de répression ne sont plus suffisantes? Aujourd'hui, la prévention n'est plus la seule arme, sinon elle n'est pas très efficace. Les jeunes subissent de plein fouet les effets de ce fléau. Quelles sont les méthodes à appliquer selon vous?
Moi, je pense qu'il faut... Moi, j'ai un peu énuméré 3 méthodes à peu près. D'abord, il faut sécuriser nos frontières. C'est très important parce qu'on sait que si... Ce que le professeur Koumaré a dit tout à l'heure, avant que les gens ne consomment, il faut qu'il y ait des drogues. Maintenant, si les drogues ne rentrent pas, il n'y aura pas de consommateurs. Ça va diminuer beaucoup. En plus de ça, il faut vraiment trouver de l'emploi pour les jeunes. Et je pense que Yatasaï a un peu touché les doigts par rapport aux jeunes qui transitent les drogues et puis les jeunes qui vendent les drogues. Parce que souvent, c'est les moins qui les poussent souvent à aller vers ça. Maintenant, c'est important, il faut vraiment employer les jeunes, surtout dans nos pays frontaliers, surtout les Grands Nord. Mmh. En plus de ça, maintenant, il y a la sensibilisation. On a tout le temps parlé de ça. Maintenant, il faut sensibiliser ces jeunes-là pour ne pas toucher la drogue, parce qu'on sait que, surtout dans nos différents séminaires, on parle chaque fois à la drogue, il y a 2 pas seulement, après la drogue, c'est la mort. Maintenant, tout de suite, quand tu es drogué, on ne dit pas le mot drogué, les usagers de drogue, maintenant, c'est les dangers qui t'attendent, c'est la mort, parce que quand tu deviens fou, folle, maintenant, c'est la mort. Moi, je pense que la sensibilisation, l'emploi des jeunes, et puis sécuriser nos frontières, ça peut vraiment nous aider beaucoup à pousser ces problèmes de drogue au Mali.
Okay. Alors, professeur, les mécanismes de prise en charge, est-ce que nous pouvons les connaître avec vous? Quels sont les mécanismes de prise en charge une fois qu'une personne est dépendante d'une catégorie de drogue?
Lorsqu'une personne est dépendante d'une catégorie de drogue, il y a les méthodes, hein, c'est-à-dire qu'il y a sur le plan médical, donc, il y a la prise en charge médicale qui peut être médicamenteuse ou bien d'autres types de produits ou d'autres types d'outils. Mais il y a aussi les psychothérapies. Donc, la prise en charge médicale, les psychothérapies, les sociothérapies, tous ces éléments-là aident justement le sujet à renoncer progressivement à la drogue, parce que la drogue est devenue pour lui l'objet, comme on l'appelle, l'objet totalitaire. Toute sa vie ne se comprend qu'à travers la drogue. Donc ça devient vraiment le piège dans lequel il tombe. Donc là, mais ce que je voulais dire par rapport à la lutte elle-même, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on ne saurait éradiquer ce fléau si vraiment on n'élabore pas, parce qu'il faut une politique nationale de lutte contre la drogue. Ça, c'est au niveau suprême. Une véritable politique nationale de lutte contre la drogue, et qu'on place ça au niveau de priorité. Et avec, on peut faire des politiques sectorielles comme on a fait pour le sida. Ça, c'est à tous les niveaux. Et un plan stratégique de lutte contre la drogue. En principe, la politique nationale définit les grandes lignes et puis il y a un plan stratégique qui prend en compte tous les aspects qui doivent être considérés. La prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui prend la prévention elle-même en tant que telle, la prévention secondaire qui est la cure, le traitement, la prise en charge, et puis la prévention tertiaire qui est la réhabilitation et la réinsertion des jeunes. Parce que c'est à travers ces 3 aspects que les gens vont bien comprendre et que le plaidoyer peut se faire et qu'un bon plaidoyer peut se faire. Là-dessus, d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis 1994, nous, nous avons lancé, avait organisé à un moment donné, ce qu'on appelait toutes les au niveau institutionnel. On avait mis en place une association, le GASLAD, le groupe d'action et de suivi de lutte contre la drogue, en 1994. C'était une, tous les ministères, on avait réussi à faire ceci avec les ONG qui existent, qui se battaient contre ce phénomène. La MAM, l'Association malienne des malades mentaux, et puis à l'UTAS. Et puis, il y a même des anciens drogués qui s'étaient reconstitués. Donc, on avait fait de telle sorte qu'on avait pu faire des groupes de proximité, des jeunes. Et c'est là où la société civile, quand je dis on interpelle la société civile, ça doit se faire à travers des groupes qui sont conscients, qui sont dans tous les quartiers, et des groupes de proximité. Et ce sont ces jeunes-là, conscients, qui aide justement à faire remonter les choses.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'humaniser un peu les malades de la drogue. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui a totalement sombré dans la drogue et qui devient par la suite, qui a atteint de la folie, peut guérir de son mal? Est-ce qu'on parvient toujours à guérir?
Mais bien sûr. Bien sûr. Ça dit que là, ça dépend de... Quand est-ce qu'on prend ? Quand vous commencez tôt, en fait, précocement, il y a de fortes chances que l'on arrive effectivement à sortir la personne de là. Et à un certain moment, effectivement, même si ça devient plus difficile, il y a toujours l'espoir au bout. Il y a certains qui s'en sortent directement, d'ailleurs, déjà, du fait de certains chocs psychologiques qui leur arrivent, sans que ça soit... du fait médical. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on peut sortir la drogue, mais il faut nécessairement que l'on n'abandonne pas. Parce que la tendance, c'est quoi? Dès qu'il y a quelqu'un sous l'emprise de la drogue, la tendance, c'est toi-même qui t'es mis dans ce pétrin. Donc c'est ton problème. Toi. Et les familles ont tendance
donc, il faut que à démissionner, la famille puisse...
Et on le culpabilise tous les jours. Ouais. Et il ne fait que répondre à l'image qu'on lui renvoie. Mmh. Tu es un vaurien, tu es un drogué, tu ne seras jamais rien. Et en ce moment... Mais c'est très dur. C'est là où il faut soutenir et les familles...
Et les malades.
Et les malades.
Alors, Mohamed Kanouté, chargé de la communication à l'Office central des stupéfiants, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner une vision globale aujourd'hui de l'ampleur de la drogue, si on vous demandait de schématiser un peu la lutte au Mali? Vous avez le dernier mot pour ce débat.
L'ampleur de la drogue se définit par notre position géographique, la position géographique de notre pays. Donc, il fait frontière donc, avec sept pays, environ plus de 7300 km donc, de zones frontières avec ces pays-là. L'ampleur de la drogue aujourd'hui, c'est aussi les moyens rudimentaires que nous avons, soit dans ces frontières ou bien à l'aéroport, donc pour procéder à des contrôles. Et encore, l'ampleur donc, de la drogue se justifie au Mali donc, par, pendant longtemps, l'absence de coordination de lutte, l'absence de synergie. Donc, qui n'existait pas autour de cette lutte. Donc, il a fallu la création de l'Office central des stupéfiants, qui est aujourd'hui une réponse donc, à l'ampleur donc, du phénomène de la drogue au Mali, donc, pour faire face donc, à cette porosité de la frontière, pour faire face donc, à ces manques de moyens techniques donc, et souvent donc, de personnel pour répondre donc, à ces défis. Donc, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Donc, le Mali est en proie. Donc, si donc, je ne me retiens pas, donc en proie donc, de devenir donc, un véritable pays de consommation. Donc pour ne pas être comme d'autres pays dans la sous-région, je crois que le phénomène doit être pris donc, à bras le corps par les autorités.
Merci beaucoup Mohamed Kanouté. Vous, au même titre que tous les invités autour de cette table, pour votre disponibilité. Voilà, c'est tout pour le débat du jour. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, premier jour de la semaine. Donc, Tamani vous a proposé de parler du fléau de la drogue au Mali. Les trois points de ce débat, les voici. Le point sur le fléau de la drogue au Mali, la lutte contre la drogue dans le pays, la gestion des conséquences sanitaires. Et nous avons eu comme invité Youssouf Samounou du réseau des jeunes leaders pour le développement au Mali, Mohamed Kanouté, chargé de la communication à l'Office central des stupéfiants, professeur Baba Koumaré du service psychiatrique de l'hôpital du Point G, Mamadou Yatassai de l'association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Nouhoum Diré. Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.